Comme tout bon locataire ou propriétaire, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Dépendance, consommation excessive, addiction, ébriété. Aujourd'hui, priorité santé. Nous parlons de ce que l'OMS désigne comme l'usage nocif de l'alcool. L'alcool, drogue légale en France, drogue réglementée et un produit singulier dans la mesure où certains breuvages sont directement associés à des moments particuliers de la vie, à certaines fêtes, au terroir, voire même assimilé à un certain art de vivre. Et pourtant, les chiffres sont là. L'usage nocif de l'alcool entraîne dans le monde 3 300 000 décès chaque année. En France, 10% des adultes sont aujourd'hui en difficulté avec l'alcool. L'alcool qui contribue au développement de pas moins de 200 maladies, traumatismes, incapacités, accidents, troubles mentaux, maladies cardiovasculaires, hépatiques, cancers. Les risques sont nombreux, variés. Ils ne sont pas forcément connus tant dans certaines régions du monde. Boire semble faire partie des conduites ordinaires dans la vie d'un adulte, habitude, voire même étape initiatique quand boire devient un rite de passage vers la majorité, à un tel point que celui qui refuse un verre est souvent contraint de se justifier pour crime de lèse-convivialité. Évaluer sa consommation d'alcool, expliquer les risques associés et lorsque la dépendance est là, comment changer, comment se fixer les bons objectifs, quelle situation éviter, reprendre le contrôle sur sa consommation d'alcool, une démarche personnelle, un chemin difficile. Et certains de ces termes, je les ai empruntés à votre ouvrage, docteur Romain Gomet, bonjour. Vous êtes addictologue en région parisienne au sein de l'hôpital Albert Chenevier de Créteil. Votre livre s'intitule, docteur Gomet, « Je maîtrise ma consommation d'alcool, savoir pour guérir » et il est publié aux éditions Ellipse. Également avec nous en studio, Virginia Monnet, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 18 novembre dernier, c'est précis, vous n'avez plus touché à une seule goutte d'alcool. Vous témoignez de ces années noyées dans l'alcool au féminin aux éditions Max Milo, récit autobiographique qui va sortir dans les tout prochains jours. Et tout à l'heure, on va rejoindre au Cameroun le docteur Jean-Louis Jon, psychiatre à l'hôpital La Quintinille de Douala. Bien sûr, comme chaque jour, on vous donne la parole, vos récits, vos témoignages au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Romain Gomet, votre ouvrage aborde de multiples aspects de ce rapport, cette relation parfois très compliquée à l'alcool. On va bien sûr s'arrêter plus longuement tout à l'heure sur les stratégies, conseils pour les personnes qui veulent limiter, voire interrompre cette consommation quand elle devient problématique. Arrêter, démarche qui est compliqué, vous l'expliquez dès le début de votre livre, c'est d'autant plus difficile que boire, ça fait partie pour certains, dans certaines régions du monde du moins, des usages. Et en France, on peut même dire, dans certaines circonstances, c'est quasiment un passage obligé, on débouche une bouteille.
Tout à fait, il y a une vraie pression sociale autour de la consommation, de la question de la consommation d'alcool. Et ça, c'est une des grandes difficultés pour les gens qui essayent d'arrêter. Les occasions sont nombreuses, les propositions peuvent être insistantes et parfois dans certaines situations, c'est mal vu de ne pas boire. Et c'est vrai que si ça peut être stigmatisant de trop boire, ça peut aussi l'être de pas boire dans certaines situations et les gens peuvent être amenés à être très pressants autour de la consommation d'alcool.
Et ce qu'on voit, c'est vraiment les aspects multiples, complexes, avec l'effet physique. On connaît mal le mode d'absorption de l'alcool. Il y a beaucoup d'idées reçues que vous essayez justement de déconstruire dans votre guide, docteur Romain Gomet. Comment ça agit sur le corps? Comment ça agit tout d'abord sur le cerveau?
Bon, l'alcool, du coup, quand il est très rapidement absorbé, il passe très très vite dans le sang et il monte au niveau du cerveau. Les effets qu'on va avoir, la plupart des gens les connaissent bien. Quand on a tendance à commencer à consommer, on commence à avoir un peu, des fois, les idées floues, un manque de réflexes. Ça va être peut-être des difficultés à parler correctement, à inhiber ses actions. Et évidemment, plus ça monte, plus ça devient compliqué. La consommation, une consommation très forte, va entraîner petit à petit, il y a un petit effet somnifère. Et au final, on peut aller jusqu'au coma éthylique qui, là, peut être très grave.
Alors, pour éliminer l'alcool, il faut un certain temps. C'est vrai que quand on parle justement de cette consommation, il y a toujours les mesures en termes de verre, en termes de centilitres, en termes aussi de degré d'alcool. C'est pas pareil de boire un verre de bière que, évidemment, un verre de whisky. Ça paraît évident, quoique ça l'est pas forcément pour tout le monde. Pour l'éliminer, il faut combien de temps? Tout ça, c'est de la chimie.
Alors, oui. Et du coup, c'est très personne dépendante aussi. En moyenne, on va éliminer... on va dire 0,15 grammes par litre par heure. Ça peut être moins, notamment chez les femmes. On élimine moins d'un verre par heure. Donc ça, les gens ne le savent pas forcément. Quand ils rentrent de soirée, ils pensent qu'en une ou deux heures sans consommer, ils sont capables de rentrer en toute sécurité. Ce n'est pas le cas.
Et alors, vous avez raconté justement dans votre livre, je me tourne vers vous Virginie Amonet, vous parlez de l'alcool au passé, avec ce titre, Noyé dans l'alcool, et on le voit, c'est une véritable chute, justement. Vous parlez, vous, quel terme vous employez justement par rapport à ce rapport à l'alcool? C'est une perte, c'est une chute, c'est quoi exactement?
Alors en fait, en ce qui me concerne, en fin de compte, j'ai vraiment voulu noyer ma tristesse dans l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut boire pour des raisons festives de temps en temps, effectivement, pas tous les jours. Et quand on commence à boire pour de mauvaises raisons, que ce soit pour oublier, que ce soit pour oublier ses problèmes, noyer sa tristesse parce qu'on a des problèmes familiaux ou de travail, là on commence à rentrer vraiment dans une problématique alcoolique pour moi. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et c'est vrai que c'est un engrenage parce qu'on croit qu'on est toujours plus fort que l'alcool. On croit maîtriser l'alcool au départ. Et en fin de compte, c'est l'alcool qui finit par nous maîtriser. Et vraiment, il faut savoir pourquoi on boit. Et le fait de savoir pourquoi on boit, c'est déjà une partie du chemin qui est parcouru.
Et on voit que ça peut être long, ça peut être compliqué de comprendre pourquoi on boit. Un livre entier pour expliquer, pour vous, ça a été nécessaire?
Alors, en fait, ce livre, j'aurais aimé lire un témoignage comme le mien, parce qu'en fin de compte, je savais dès le départ pourquoi je buvais, mais par contre, je n'avais pas conscience du parcours de soins, des difficultés du parcours de soins, et effectivement, je n'avais pas conscience non plus de mon alcoolisme au départ. Et donc, ce livre, en fait, pour moi, a été vraiment libérateur, dans le sens où je me suis rendu compte que j'en étais arrivée à un point où c'était la mort ou la vie, et je savais, bon, d'un point de vue personnel, que mon fils n'allait pas bien et il fallait que je me sauve moi pour le sauver lui.
Alors, vous avez justement ce rapport avec cet enfant qui va aussi, d'une certaine manière, motiver votre volonté de vous en sortir.
Oui, tout à fait, parce que les dommages collatéraux de l'alcool sont absolument terribles et terribles pour toute la famille, l'entourage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas arrêter de boire pour les autres. On peut arrêter de boire que parce qu'on l'a décidé soi-même. Et c'est une prise de conscience, malheureusement, qui est très dure à acquérir. Et moi, il a fallu que je touche le fond pour l'avoir. Et en fin de compte, vous pouvez voir beaucoup de médecins, beaucoup d'addictologues, vous pouvez parler, vous pouvez raconter votre histoire 10, 15, 1000 fois. C'est vrai que tant qu'on n'a pas cette prise de conscience au fond de soi, malheureusement, on rechute fondamentalement. Et c'est vrai que il faut avoir cette prise de conscience soi-même. On ne peut pas guérir pour les autres.
Alors, vous avez cessé de boire il y a un peu moins d'un an. Est-ce qu'aujourd'hui, votre corps ressent encore les effets, les méfaits de cette addiction passée?
Alors non, moi j'ai eu la chance effectivement, malgré le fait d'avoir bu deux bouteilles de vodka par jour au minimum pendant plusieurs années, je n'ai aucune séquelle physique et bien évidemment j'ai repris vraiment pleine possession de mon corps et de... Mais par contre, c'est vrai que quand on a arrêté de boire, il y a une montagne dont on ne nous parle pas. On a l'impression que d'arrêter de boire, on est au sommet de la montagne. Non, c'est pas vrai. Parce que l'alcool anesthésie tellement que finalement, eh bien, il faut réapprendre à vivre. Vous retrouvez, en fin de compte, quand vous arrêtez l'alcool, les problèmes que vous aviez avant l'alcool. Vous retrouvez les problèmes que vous avez causés pendant l'alcool. Et après, en plus de ça, l'alcool anesthésie tellement qu'il faut réapprendre à avoir confiance en vous. Et il faut faudrait apprendre à gérer ses émotions et à gérer le quotidien. Et ça, c'est un véritable travail après, dont les spécialistes ne nous parlent pas forcément.
Alors, aujourd'hui, vous êtes complètement abstinente. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez imaginé poursuivre une consommation dite modérée, ou pour vous, Virginia Monnet, c'est complètement impossible?
Alors, c'est complètement impossible parce que pour moi, maintenant, l'alcool est synonyme de danger mortel, à savoir que pour moi, l'alcool est poison et drogue. À partir du moment où on a besoin du produit, qu'on cherche le produit, qu'on attend le produit, qu'on met tout en place pour avoir le produit, qu'on tombe dans une addiction, mais c'est aussi donc une drogue. Et le corps le demande, c'est-à-dire que psychologiquement, on en a besoin. Pour noyer sa tristesse ou sa peine ou d'autres choses. Et après, c'est le corps qui en demande. Donc, on est dans le processus d'une drogue véritablement qui est en vente libre et qu'on trouve à tous les coins de rue. Et donc, moi, je suis complètement sortie de l'alcool à tel point, c'est que je ne compte pas mes jours d'abstinence. Parce que pour moi, compter mes jours d'abstinence, ça serait garder un lien avec le produit. Et je ne veux plus garder de lien avec ce produit.
Alors, il y a un débat au sein de la société, savoir s'il faut complètement renoncer ou aller vers une consommation modérée. Docteur Romain Gomain, est-ce que vous êtes témoin justement de ces plusieurs écoles qui existent justement, y compris peut-être même au sein du corps médical ?
Bien sûr, bien sûr. Pendant des années, on a considéré que la seule façon de se sortir de l'addiction, c'était d'éliminer complètement le produit de sa vie.
Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Ce n'est pas la seule solution.
Vous évidemment, dites que ça dépend des personnes.
Exactement. Et finalement, c'est quelque chose qui est évidemment une très bonne solution pour Madame Amonet. Ça, c'est une solution qui est évidemment très protectrice en ne s'exposant plus à ce produit, en considérant comme ne faisant plus partie de sa vie. La difficulté, c'est que ça ne correspond pas toujours aux desiderata de tous. Et le but n'est pas d'imposer un objectif aux personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, parce que sinon on en laisse beaucoup sur le bord du chemin.
Vous pensez justement que si on dit on va modérer la consommation plutôt que l'arrêter totalement, on peut, entre guillemets, attirer d'autres patients vers une solution ?
Exactement. En fait, les études montrent qu'au moins la moitié des patients qui entrent dans les soins sont plutôt dans une démarche de diminution que d'abstinence totale. Comme je vous l'ai dit, l'abstinence peut être quelque chose de très stigmatisant, de très difficile. Et un certain nombre de patients souhaitent garder une consommation et plutôt récupérer un contrôle de leur consommation. Alors, je dis pas que ce sera possible pour tout le monde, mais quand ils sont dans cette démarche-là, il faut aller dans leur sens, il faut essayer. C'est quelque chose aussi qui peut renforcer secondairement, si ça ne venait à ne pas marcher, la motivation à l'abstinence pour ceux chez qui n'arriveront pas à récupérer ce contrôle-là. Mais c'est une offre de soins qu'il faut offrir. Et d'ailleurs, un patient, ce qui a été montré aussi, il y a une étude qui a montré que les patients il y a assez peu de patients qui rentrent dans les soins, qui viennent auprès des professionnels de santé pour parler de leurs problèmes d'alcool. Et une des raisons majeures, la deuxième dans cette étude, c'était la crainte de devoir être abstinent et qu'on leur impose une abstinence.
Alors, je vous lis réagir, on va prendre les auditeurs dans un instant, vous lis réagir, Virginia Monnet.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on atteint un certain point qui peut arriver jusqu'à la violence, à la folie alcoolique, effectivement, on ne peut plus, malheureusement, retoucher au produit. C'est inimaginable et inconcevable, parce que, de toute manière, la case, quand elle s'est refermée, il faut qu'elle se referme. Et je voudrais dire aussi qu'après, ce n'est plus stigmatisant, quand on a vraiment décroché, de rester abstinent, bien au contraire, parce qu'on voit bien aussi l'alcool qu'a l'effet chez les autres. Et en fin de compte, on se rend bien compte qu'au bout de deux verres, les gens changent également. Et on n'a pas envie de se retrouver dans un état changeant. Et quand on a retrouvé pleinement conscience de son esprit et de sa liberté retrouvée, eh bien, c'est un véritable plaisir et on est content de ne plus boire.
C'est sans regret.
Sans regret aucun.
On va donner tout de suite la parole à nos auditeurs.
Priorité Santé sur RFI.
D'autres témoignages et des questions dans Priorité Santé avec Alexis. Alexis qui est au Cameroun, à Maroua. Bonjour Alexis.
Bonjour Caroline.
Nous sommes à votre écoute. Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Oui, je suis à Maroua, comme vous avez dit.
Oui.
Je suis devenu accro à l'alcool. Jusqu'à ce que j'essaye d'arrêter. Et ça me dépasse. Alors, j'ai su qu'il y a des familles. Alors, je me rends compte qu'au bout de 5 ans, j'ai perdu la productivité, je ne produis plus. Mes affaires sont presque aux arrêts. Je demande qu'est-ce que je peux faire, quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour que je puisse...
Alexis, vous buvez dans quelles circonstances et vous poursuivez une activité professionnelle?
Oui.
Et vous buvez quand? Le matin, le soir, avec des amis, à la maison?
Oui, avec des amis, dans les bars. Je n'ai pas de temps. À tout moment, je n'ai pas de temps pour boire. Donc, on commence à boire le matin, comme on peut boire le soir. En fait, dès qu'on a un peu du temps libre, avec des amis, on se lance dans la boisson.
Et vous vous donnez rendez-vous après le travail pour justement aller boire ensemble?
Oui, même pendant le travail, des fois, on boit.
Est-ce qu'il vous arrive de passer une journée ou deux journées sans boire une goutte d'alcool?
Oh, mais c'est difficile, vraiment.
Et dans vos relations, vous disiez, vous êtes père de famille, dans votre relation avec votre épouse, avec vos enfants, est-ce que ça a changé les choses?
Oui, évidemment que ça a changé les choses, parce que je n'ai plus assez de temps pour ma famille. Donc, ça impacte négativement sur la famille, sur l'éducation des enfants, et surtout que mon épouse ne goûte pas l'alcool.
Elle ne boit pas d'alcool. J'ai une question un petit peu crue à vous poser, Alexis. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes sous?
Oui.
Vous êtes sous, vous allez directement vous coucher parce que vous avez des fois mal à la tête, etc.
Oui.
Je vais donner tout de suite la parole. Je vous ai posé toutes ces questions. Maintenant, le médecin qui est avec nous, le docteur Romain Gomet, va vous échanger avec vous.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Alors, j'ai bien entendu votre problématique. Ce que vous décrivez, c'est dans les troubles liés à l'usage d'alcool, c'est très classique. C'est le fait que le produit prenne tant de place dans votre vie que vous n'arriviez pas à arrêter, malgré toutes ces conséquences que vous nous détaillez, des conséquences dont vous avez conscience. Vous avez conscience du lien avec l'alcool, de toutes ces problématiques, et c'est impossible pour vous de vous en libérer à l'heure actuelle. Abandonner l'alcool, déjà, ça va passer. Il va y avoir plusieurs stratégies que vous allez pouvoir utiliser. Peut-être déjà changer un peu votre mode de vie, c'est-à-dire ses amis que vous rencontrez après le travail, les gens avec qui vous allez consommer avant le travail. Essayez peut-être de faire des modifications par rapport à ça. Essayez de limiter le temps peut-être d'exposition à l'alcool, c'est-à-dire ne pas avoir d'alcool sur vous. Limiter le temps peut-être en rentrant plus vite du travail, en arrivant plus vite chez vous. Ça, c'est des choses qui peuvent vous permettre de limiter. C'est modifier un peu votre
certaines
vie,
habitudes.
Les habitudes que vous avez autour de l'alcool. Je veux quand même faire une précision dès ce premier témoignage. Vous parliez des jours d'abstinence, donc vous n'en avez pas forcément. Dire quand même aux auditeurs de faire très attention au sevrage brutal, parce que arrêter l'alcool brutalement, quand on a l'habitude d'en consommer tous les jours, ça peut être dangereux.
Ça peut avoir des effets physiques.
Ça peut être dangereux. L'arrêter brutalement, ça peut être dangereux. On parlait tout à l'heure on parlait du syndrome de sevrage. C'est de ça dont il est question. C'est-à-dire quand on a des tremblements, des sueurs le matin, quand on a déjà fait des crises d'épilepsie par rapport à ça, quand on a déjà eu des hallucinations au moment d'arrêter, à ce moment-là, il faut faire très attention. Il faut se faire aider avant d'arrêter brutalement.
Se faire aider, ça veut dire aller voir un médecin.
Il faut passer à ce moment-là par un médecin.
Est-ce que vous avez déjà pensé, Alexis, justement, en parler directement à un médecin?
Non.
Et pourquoi?
Non, mais moi, je croyais que je devais dompter l'alcool.
Dompter par vous-même. Ouais. Et vous ne pensez pas qu'en vous faisant aider, justement, aujourd'hui, il y a eu cette démarche, appeler Priorité Santé pour avoir des conseils et aller voir directement un professionnel de santé pour vous faire aider, ça pourrait être une bonne chose?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez le courage, parce que c'est pas facile d'aller voir un médecin, normalement un médecin va voir pour une maladie, aller le voir et lui dire, là, moi, mon problème, c'est l'alcool. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est possible?
Non, c'est possible.
C'est possible.
Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis médecins.
Vous avez des amis médecins. Virginie Amonet, qui est passée par là, justement, avait envie de vous dire quelque chose.
Oui, tout à fait. Je rejoins le docteur en ce sens. C'est qu'effectivement, il faut déjà changer ses habitudes. Il faut essayer de changer son rythme de vie et peut-être parfois éviter certaines personnes de son entourage. Ça, c'est une première chose à faire. Après, c'est vrai que quand on boit tous les jours, la boisson, c'est une façon de se remplir. C'est-à-dire que on boit parce qu'on est triste, mais on boit aussi pour se remplir, pour combler un vide, pour combler quelque chose. Donc, il faut que vous peut-être que vous puissiez savoir pourquoi vous buvez et d'où vient cette envie de boire. Ça sera déjà une bonne partie du chemin parcouru et effectivement de vous faire accompagner par un professionnel parce que le sevrage, en fin de compte, vous guérit l'alcool du corps. Mais quand vous sortez de sevrage, et c'est indispensable, il faut également soigner le côté psychologique de l'addiction à l'alcool. Et en fin de compte, si vous sortez de sevrage et que vous n'êtes pas accompagné psychologiquement, vous allez automatiquement replonger.
Est-ce qu'avant de boire de cette manière, Alexis, vous faisiez une activité physique ?
Non.
Un peu de sport ou quelque chose, vous bougez pour justement occuper votre temps autrement qu'avec justement ces sorties autour d'un verre ou d'une bouteille.
Oui, mais je crois donc qu'il faut que je fasse le sport, parce que je ne fais pas le sport.
Et c'est quelque quelque chose qui vous fait envie de faire du sport justement ? Passer une heure par exemple en train de courir, en train de marcher ou avec justement d'autres amis qui feraient du sport, d'autres fréquentations, qui auraient d'autres activités ?
Oui, donc je crois qu'en faisant ça, ça pourrait beaucoup m'aider. Puisque là maintenant, si je suis pas à la maison et que je suis en ville, sincèrement, on se trouve avec des amis qui consomment de l'alcool et du coup, c'est reparti.
Donc,
je peux dire que je ne bois pas et puis aussitôt dehors, c'est la même chose.
Vous retournez toujours à la boisson. En tout cas, ce que vous a bien précisé le docteur Gomain, si vous arrêtez, passer par les conseils et l'expertise d'un médecin justement pour éviter les sensations ou les risques liés associés au sevrage. On vous souhaite dernier mot.
Du coup, oui, pour compléter pour le risque de sevrage, à savoir que ça peut être très très dangereux. La crise d'épilepsie ou le délirium tremens c'est un sevrage qui peut être mortel en soi, donc c'est très important.
Très important d'aller consulter. On vous souhaite bon courage, hein, Alexis. Très bonne journée à Marois. On va prendre en ligne Quadio. Quadio qui est avec nous de Côte d'Ivoire, de San Pedro. Bonjour Quadio.
Bonjour Caroline.
On vous écoute. Rapprochez-vous un petit peu de votre téléphone parce que là vous avez l'air très très loin. Vous êtes en Côte d'Ivoire, mais rapprochez-vous de nous pour qu'on entende bien ce que vous avez à nous dire. Allez-y.
Alors, bonjour.
Ah, vous êtes là. C'est bien. On vous écoute, allez-y.
En fait, je disais que à cause de mon boulot, j'ai stoppé un peu l'alcool depuis une semaine. Mm-hmm. Mais ce que je voulais savoir, c'est que le week-end, je m'ennuie beaucoup à la maison. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire puisque je ne consomme plus. Je suis plus avec les potes. Donc, je voulais savoir si je pouvais trouver un remplaçant pour pouvoir peut-être oublier totalement l'alcool.
Un remplaçant à l'alcool. Mais ce que vous nous dites, Quadio, et c'est ce qu'on retrouve dans les deux livres qui ont servi à préparer cette émission, c'est que beaucoup de gens disent aussi, docteur Romain Gomain, je bois aussi parce que je suis triste et j'ai envie de retrouver une forme de joie. Et vous dites, ça, eh bien, c'est une fausse croyance.
Oui, c'est une fausse croyance. L'alcool, c'est un produit qui est très dépressogène. C'est un produit qui crée de la dépression. C'est un produit qui est aussi anxiogène. C'est-à-dire quand on va le prendre à la base, il va y avoir un tout petit effet anxiolytique sur le moment. Mais dans le temps, c'est un produit qui rend plutôt anxieux et dépressif. Donc ça, c'est une fausse croyance, effectivement.
Quadio, ça veut dire que vous ennuyez, hein, si on a bien compris. Quand vous sortez du travail, vous ennuyez. Je posais tout à l'heure la même question à Alexis du Cameroun. Vous faites pas d'activité physique, vous avez pas d'autres occasions de rencontre avec des amis que celle de boire ?
Bon, même si on a d'autres occasions, mais bon, vers la soirée, je crois bien que aux environs de 18h, 19h par là, souvent, on n'a plus d'autres occasions, on ne peut plus faire le sport. Mm-hmm. Donc, aller dans les bars ou bien au matchi, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Bon. Or, quand c'est pas le cas, tu ne bois plus. Bon, à la maison, regarder la télé, souvent c'est un peu ennuyé.
Et vous considérez, Quadio, que vous buvez trop aujourd'hui?
Bon, je buvais un peu trop. Hein. Bon, je sais pas, relativement, je buvais un peu trop.
Ça veut dire que vous couchez, en gros, vous êtes en état d'ébriété, vous avez la tête qui tourne?
Bon, pas tout à fait. À cause, le problème, c'est que je suis comptable, donc j'oublie souvent certaines choses et autres, donc j'ai décidé d'arrêter pour mieux me concentrer sur le boulot.
Parce que ça nuisait à votre travail. Et maintenant, vous avez arrêté vraiment ou ça fait une semaine? Vous avez senti des effets justement quand vous avez arrêté de boire?
Bon, je n'ai pas encore senti d'effet, mais tout à l'heure, j'ai eu un peu peur quand le docteur parlait à Alexis. Mm-hmm. Il avait dit que l'arrêt brutal pouvait créer certaines choses. Bon, c'est là que
En même temps, le message de cette émission, ce n'est pas de dire qu'arrêter de boire, c'est dangereux. C'est quand on boit beaucoup et qu'on arrête, hein, c'est bien cela, docteur Romain Gomez, c'est quand on arrête sans consulter, quand on a une consommation très importante.
Oui, les syndromes de sevrage, déjà, ce n'est pas tous les patients qui sont à risque de sevrage. Et ceux qui sont à risque de sevrage, qui vont avoir des tremblements, des sueurs, un peu de tachycardie, les jours où ils ne consomment pas, parmi ceux-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont à risque de faire des syndromes de sevrage graves, dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que si on a ce type de symptômes à l'arrêt, il vaut mieux consulter et ne pas faire les choses brutalement. Après, vous, si vous avez arrêté pendant plusieurs jours et qu'il ne s'est rien passé, a priori, bon signe. Vous êtes à l'abri vous êtes à l'abri de tout ça.
Voilà, Quadio. Très bonne journée à San Pedro. On part pour le Maroc où nous sommes en ligne avec Astadjam. Astadjam, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Nous sommes à votre écoute. Allez-y.
Déjà, merci pour votre émission. Pour moi, c'est très simple. C'est que moi, j'ai pas d'addiction à l'alcool, mais mon mari, c'est. Mmh. Alors, ça fait... Bon, on est mariés depuis une bonne dizaine d'années déjà. Donc, au début, je n'avais pas compris qu'il s'agissait... qu'il était alcoolique, en réalité. Mmh. Je me disais, c'était de la jeunesse. Il s'amusait, c'était les amis, les fréquentations. Mais au bout de 3 ans, j'ai compris qu'au final, il y avait un problème. Et quand je parle de problème, c'est pas une fois par semaine. C'est pas 2 fois par semaine. Ça peut être jusqu'à 5 fois par semaine. Mmh. Aujourd'hui, quoi, ça fait 10 ans, donc ça veut dire que ça fait quand même quelques années que ça dure. Et je suis un petit peu perdue parce que je ne sais pas comment l'aider en réalité. Et j'aimerais l'aider.
Est-ce que vous en parlez avec lui?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il vous répond? Qu'est-ce qu'il vous répond?
Au départ, c'était un déni. Mm-hmm. Il me disait non, c'est rien, je contrôle, je gère. Mais depuis quelques temps, depuis on va dire 3 ans, oui, 3 ans, il a compris, il le sait en fait, il l'a toujours su. Mais là, il aimerait que ça s'arrête, que ça change, mais l'addiction est toujours plus forte. Je te promets que j'arrête, je te promets que je ne le ferai plus.
Et au-delà de ses promesses, il a vu quelqu'un, il a vu un médecin pour en parler?
Pas spécialement.
Et qu'est-ce que vous lui dites justement? Vous avez observé des changements dans son comportement, par exemple avec vos enfants, un changement dans la relation?
Il y a une certaine distance. Aujourd'hui, il est plus dans la fuite parce qu'effectivement, il essaie de cacher ce qu'il fait. Donc, il ne veut pas boire et montrer parce que c'est clair qu'après avoir bu, on ne se sent pas bien, on vomit. Donc, du coup, il est plus à l'extérieur qu'à la maison. Et il y a un manque. Il y a un manque pour les enfants, il y a un manque pour la maman. Et dans la relation aujourd'hui, en fait, pour tout vous dire, je pense que l'alcool a pris toute la place et nous, on n'est presque plus là, quoi.
Et ce qu'on comprend bien avec votre témoignage, Astadjam, hein, docteur Romain Gomez, c'est que l'impact est très puissant, bien sûr, pour l'individu, pour le patient que vous prenez en charge, mais pour tout son entourage.
Bien sûr, l'impact est très important pour l'entourage. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est très, très difficile d'avoir une position d'aidant dans ces moments-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses on aimerait faire réagir la personne. C'est vrai que les conséquences leur sont souvent évidentes. Mais il y a ce que vous parliez du déni. C'est un mécanisme qui est très fréquent, beaucoup au début, et puis même quand le déni tombe, il reste ce qu'on appelle une ambivalence, c'est-à-dire que malgré le fait de connaître très bien les conséquences, il peut rester, ça peut être des fois difficile d'arrêter, et ça s'explique aussi sur le plan cérébral.
Et la décision vient uniquement du patient ou l'entourage peut jouer justement pour l'amener vers le soin?
L'entourage peut jouer, effectivement, évidemment. Si le but étant de ne pas activer non plus des défenses, c'est de rester dans le soutien, dans la bienveillance, les critiques, tout ce qui peuvent être assez classiques. Les critiques, les menaces, c'est des choses qui sont souvent assez contre-productives. Le soutien, le dialogue, ça peut permettre de franchir ces étapes et d'offrir à la personne l'occasion d'en parler quand il est prêt.
Dans ce témoignage d'Astadjam, il y a quelque chose qu'on retrouve dans votre ouvrage, Virginia Monet, ce sont les promesses « Demain, j'arrête ».
Exactement, tout à fait. J'ai longtemps promis pour tout mon entourage que dès le lendemain, j'arrêtais de boire. Et effectivement, ça ne marchait pas parce que c'était que moi qui pouvais décider de le faire uniquement pour moi-même. La prise de conscience, évidemment, ne vient que de soi-même. L'entourage essaye. Et effectivement, je rejoins le docteur aussi en ce sens, c'est que malgré les préventions de l'entourage et les reproches et les menaces parfois, effectivement, c'est contre-productif. Là où c'est dangereux également, c'est quand on commence à cacher sa consommation et par l'entourage. Parce que justement, l'entourage vous fait des reproches, donc vous cachez votre consommation d'autant plus. Et en même temps, donc, ça ne fait que réactiver et alimenter cette consommation qui devient de plus en plus excessive. Donc, vous vous cachez, vous allez vous précipiter sur la bouteille avant de voir l'entourage. Et comme ça, vous avez votre dose d'alcool. Et puis, dès que l'entourage a le dos tourné, vous y retournez à nouveau sur l'alcool. Et donc, l'engrenage est encore plus accéléré. Et c'est bien là le danger. Et si votre époux a l'intention, effectivement, de se faire aider par un professionnel, sautez sur l'occasion, accompagnez-le. Et n'hésitez pas à le faire immédiatement parce que ça veut dire que là, il y a une prise de conscience et que donc un professionnel peut vraiment lui tendre la main et que c'est maintenant qu'il faut agir.
Et ce sans délai. On vous souhaite bon courage à Astadjam. Hein. Très bonne journée au Maroc. On prend un dernier auditeur. C'est Chester qui est au Congo-Brazza, Pointe-Noire précisément. Bonjour Chester.
Bonjour Karine.
On est à votre écoute. Allez-y.
J'aimerais savoir quelles sont les causes que je cours en consommant plus l'alcool. J'ai commencé à prendre l'alcool quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Mais dernièrement, j'ai remarqué que j'ai des problèmes d'érection. Et dernièrement, j'ai entendu que l'alcool avait des effets néfastes. Donc, j'aimerais un peu savoir plus quels sont les risques que je cours.
Les risques, notamment en termes de santé sexuelle, hein, c'est quelque chose qui est prouvé, docteur Romain Gomet, des risques multiples, notamment sur ce plan-là.
Tout à fait. Les gens ont une fausse idée autour de ça. Ils ont l'impression que l'alcool va les aider sur le plan sexuel. Alors évidemment, l'alcool, ça peut faire tomber c'est très désinhibant, donc ça peut faire tomber...
On se sent plus à l'aise en société, on va parler aux gens, mais c'est le premier effet.
Ça, c'est le premier effet. Après, l'effet de l'alcool sur la sexualité, il est plutôt nocif, ça entraîne des problèmes d'érection. Chez la femme, ça entraîne un retard pour obtenir l'orgasme. Et après, secondairement, ça a aussi des risques importants par rapport à la fécondité. Donc c'est vrai que les risques sur cette question-là, ils sont là.
Chester, vous avez constaté d'autres effets sur votre santé ?
Non, juste à part des palpitations, quand je bois beaucoup, mais des fois quand je ne prends pas, je me sens comme si... c'est comme si je m'étouffais un peu.
Est-ce que vous avez envie d'arrêter ou pas?
Oui, j'ai envie d'arrêter, mais malheureusement, je n'arrive pas. Quand j'essaie d'arrêter, je peux faire une semaine, je ne prends pas, mais il suffit juste qu'un ami puisse m'inviter à prendre une bouteille et ça me donne l'envie d'en prendre plus.
Oui, vous avez envie. Est-ce que vous avez par contre envie d'aller voir un médecin pour en parler avec lui?
Oui. J'ai envie d'aller voir un médecin, mais malheureusement, chez nous, c'est un peu difficile mais de consulter des médecins pour ça.
D'aller voir un généraliste, c'est compliqué d'aller voir un généraliste et de lui en parler?
Non, au fait, pour nous, c'est un tabou. Nous, on se dit que prendre l'alcool, c'est plus naturel que d'aller voir un médecin.
C'est plus naturel que boire de l'alcool, mais si ça pose des problèmes, y compris sur votre sexualité, c'est quand même une bonne motivation d'être épanoui sur le plan sexuel, donc ça peut être une bonne motivation aussi pour arrêter de boire.
Si.
Non?
Oui, mais au fait,
vous avez 29 ans quand même. Vous n'avez que 29 ans.
Oui, au fait que j'aimerais pas savoir qu'est-ce que je peux faire vraiment pour arrêter définitivement.
Eh bien, je pense que le docteur Gomet va vous le dire, mais ce qu'on répète depuis le début, c'est une fois que vous avez la motivation, je pense que c'est d'aller consulter.
Alors oui, déjà, la première chose, c'est la motivation. On en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est vraiment quand ça vient de soi, qu'on a pris conscience des conséquences et qu'on a vraiment décidé d'arrêter. Après... si vous n'arrivez pas à arrêter seul, c'est vrai que se faire aider, c'est une bonne solution. Alors, se faire aider médicalement pour faire ça en toute sécurité, parce qu'il y a des très bons conseils, les professionnels ont des très bons conseils à vous donner. Et également, vous pouvez vous faire aider par des associations de personnes, d'anciens patients, de personnes qui ont eu cette problématique-là, parce qu'ils sont passés par là et ils peuvent vraiment vous donner de très, très bons conseils.
Voilà, Chester, pour ces conseils. On vous souhaite une bonne journée au Congo-Brazzaville. Une question qui nous vient du Bénin de Cotonou, c'est Bernard qui nous l'a posée. Il parle de la consommation d'alcool sur certaines catégories particulières de personnes, les femmes enceintes et les adolescents. Je me tourne vers vous, docteur Romain Gomet. Justement, là, sur la consommation chez les femmes enceintes, c'est très clair.
C'est très très clair. La tolérance doit être une tolérance zéro. L'alcool a encore trop d'impact par rapport aux enfants. Aux enfants à naître et notamment par rapport à des troubles cognitifs qu'ils pourraient avoir à posteriori. Et du coup, l'alcool, oui, c'est vraiment zéro. Le message doit être très, très clair par rapport à la grossesse.
Là, au moins, c'est simple, c'est interdit.
C'est simple.
Et puis, une question que pose Bernard, mais qui peut paraître étonnante, quoique, il dit, la consommation chez un ado, est-ce que ça va le perturber dans sa scolarité ?
Oui, forcément, c'est une époque, c'est une période qui est très importante. L'alcool, évidemment, n'est pas du tout une aide pour se concentrer, entraîne des troubles cognitifs, donc des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention. Donc, c'est pas du tout une bonne stratégie. Et en plus de ça, l'adolescence, c'est un moment où le cerveau mature, et si on fait entrer les produits à cette époque de la vie, ils risquent d'être ancrés encore plus, de manière encore plus importante pour la suite. Donc c'est un vrai facteur de risque pour rentrer dans une addiction plus tard.
Votre livre s'appelle « Noyé dans l'alcool, noyé au féminin ». L'alcoolisme au féminin, précisément, Virginie Amonet, est-ce que vous avez un regard particulier sur ce que vous avez été, une femme qui boit aujourd'hui, une femme qui ne boit plus, justement sur ce rapport au genre et à l'alcool, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à en dire ?
Alors oui, tout à fait. En fait, avant d'être une femme alcoolique, j'ai été une femme active. Et je dois dire que le fait, il y a beaucoup de femmes partout dans le monde qui travaillent énormément, qui sont soumises à beaucoup de pression, qui sont aussi dans des milieux assez masculins, et qui peuvent effectivement avoir une consommation d'alcool parfois irraisonnée et progressivement irraisonnée. L'alcool féminin a la particularité qu'effectivement c'est un alcool qu'on ne fait pas en public, qu'on cache et qu'on fait souvent chez soi. Et d'autant plus qu'en fin de compte, on met en place des stratégies pour cacher l'alcoolisme en choisissant des alcools qui ne se voient pas, qui ne se perçoivent pas. Et en plus de ça, on fait preuve de grande maîtrise pour justement cacher pour son entourage la consommation d'alcool. En tant que femme aussi, au départ, on prend soin de soi. On fait attention effectivement à ce que ça ne se voit pas. Et quand on boit beaucoup, finalement, le physique change malheureusement. La peau n'est plus la même, la façon de s'habiller n'est plus la même. Et puis, on adopte au départ des stratégies de changer peut-être d'endroit où on se procure l'alcool. Et finalement, quand on est vraiment dans une problématique alcoolique, on va là où c'est le plus près ou le plus proche et on n'a plus peur du regard des autres. On est vraiment tombé dans un alcool où on a besoin du produit et on ne fait plus attention ni à soi-même ni aux autres et au regard des autres. Donc l'alcool au féminin est à prendre en considération parce que c'est très tabou dans notre société. Une femme, d'autant plus qu'elle est mère, n'a pas le droit de tomber dans l'alcool. Et les hommes qui ont trop bu, souvent on leur trouve beaucoup d'excuses, on dit celui-là il est rigolo, bon il s'est un petit peu énervé ce soir, mais voilà, une femme qui tombe dans l'alcool, on lui trouve beaucoup moins d'excuses. Et moi, en ce qui me concerne, on disait c'est une personne intelligente, elle va s'en apercevoir toute seule. Mais non, on m'a jamais rien dit auparavant. Et effectivement, l'alcool au féminin est une véritable problématique et il faut en parler.
Et justement, dans votre livre, vous dites à plusieurs reprises « j'attendais le déclic ». Comment est-il venu, Virginie Amonet, ce moment où on se dit « là, c'est terminé, je vais me faire aider, j'arrête ».
Alors, à force de faire beaucoup de sevrages, de cures, de voir beaucoup d'addictologues, de médecins et de praticiens et d'associations, on me parlait souvent du déclic. Alors, il faut savoir que pour certaines personnes, le déclic arrive parce qu'il y a des problèmes de santé graves, comme des pancréatites, etc. Donc, le déclic, il est obligatoire. Mais par contre, le déclic, pour moi, quand on m'en parlait, on me disait « qu'est-ce que c'est bien d'arrêter de boire, etc. » Moi, avant, je n'aurais jamais cru, je ne me voyais pas ne plus jamais toucher une goutte d'alcool.
Pourtant, vous étiez dans des états parfois absolument épouvantable.
Épouvantable. Mais moi, je buvais jusqu'à tomber par terre. C'était un suicide à petit feu. En fin de compte, quand on boit de cette manière-là, on se tue à petit feu.
Vous êtes retrouvé sanglé sur une civière. Vous êtes retrouvé dans des situations absolument tragiques.
En hôpital psychiatrique également. Et d'ailleurs, la place d'un alcoolique n'est pas en hôpital psychiatrique non plus. Mais par contre, pour revenir effectivement à cette problématique-là, c'est que il faut véritablement le déclic. On a l'impression qu'il va arriver comme ça le matin quand on va se lever. On vous en parle, on l'attend, on en rêve, on se demande quand est-ce que ça va arriver. Est-ce qu'une rencontre va être le déclic? Est-ce que ça va être un coup de baguette magique? Non, pas du tout. En fin de compte, moi, le déclic, ça a été vraiment de toucher le fond et d'être face à une mort imminente pratiquement, parce que si j'avais continué à boire au rythme où je continuais, je me serais tuée ou j'aurais tué quelqu'un. Enfin, mais de toute façon, je me voyais clairement au fond du trou. Pour moi, vraiment, j'ai touché le fond. Je buvais beaucoup trop. Et je ne m'arrêtais pas qu'à deux bouteilles de vodka. Je buvais beaucoup plus que ça.
Docteur Romain Gomez, est-ce qu'il y a un bon moment pour arrêter?
Non. Je pense que tous les moments sont bons. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va passer cette phase où on va être prêt.
C'est ça.
Et
c'est ça,
convaincu d'arrêter. Alors, c'est vrai que souvent, on est obligé d'avoir des conséquences assez importantes pour avoir ce déclic dont vous parlez. Et c'est dommage. Donc, si on peut prendre les choses en main plus tôt, qu'on s'en rend compte plus tôt et qu'on peut être amené sur la voie du soin avant ça, c'est une très bonne chose, évidemment.
On a conseillé tout à l'heure aux auditeurs d'aller voir un médecin. On peut aller voir d'abord dans un premier temps un généraliste, voire carrément voir un médecin généraliste quand on n'a pas d'autre choix. Ensuite, aller voir justement un addictologue qui lui va être spécialisé. Qu'est-ce qu'on propose aux patients alcooliques qui sont en surconsommation d'alcool? Qu'est-ce qu'on leur propose quand ils viennent justement consulter?
Déjà, c'est un suivi au long cours en général, parce que il va falloir du temps pour créer une relation thérapeutique satisfaisante, une vraie confiance. Il va falloir du temps aussi pour voir un peu les situations de la vie de la personne qui sont à risque pour lui de rechuter.
Et les personnes ont peur d'arrêter?
Certaines.
Elles ont peur de quoi précisément?
Il y en a beaucoup. Les gens ont peur déjà de la pression. On parlait de pression sociale, c'est-à-dire au boulot, ça peut être difficile de refuser les verres, surtout quand les gens nous ont vus consommer par le passé. En famille, il y a des pressions. Même dans les familles qui sont très impactées par les problèmes d'alcool, des fois les gens qui deviennent abstinents ont quand même de la pression au moment des mariages, au moment des fêtes, où culturellement c'est très fort le fait de consommer de l'alcool. Les gens leur disent « Allez, juste un verre, tu peux quand même ». Donc c'est pas simple.
Et justement, dans votre livre, vous pointez ces situations dites à risque pour que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité s'y préparent. Comment on fait justement quand on est tellement fragile, tellement vulnérable, pour arriver dans ce genre d'occasion et pouvoir s'en sortir indemne?
C'est pas simple. Dans un premier temps, certains préfèrent éviter ce genre de situation. Après, l'évitement, c'est pas toujours la solution idoine, dans le sens où ça peut créer de l'ennui, ça peut créer de l'isolement, et c'est pas toujours très très facile à vivre non plus. Et c'est aussi à risque. Du coup, ça crée des émotions un peu négatives qui peuvent faire replonger. Donc il faut être capable aussi à un moment de s'exposer un peu à des situations qui nous sont importantes. Donc on peut choisir les situations, déjà ça c'est une des choses. Après dans ces situations, on peut aussi, le fait d'en avoir parlé aussi aux gens qui vont être présents dans ces situations, aux amis, à la famille, c'est des choses qui peuvent être protectrices, qui comprennent bien la maladie, qui comprennent bien ce que c'est, qui puissent être des soutiens dans ces moments-là. Donc pas culpabilisant, mais plutôt bienveillant.
Est-ce que vous avez eu conscience, justement, pendant votre parcours, Virginia Monnet, que les gens prenaient vraiment conscience de cette dimension de maladie?
Alors, la dimension de la maladie, Non, effectivement, parce que effectivement, il y a beaucoup de cachotteries. On s'organise de manière à cacher l'alcool et l'alcoolisme. Et puis la maladie, en fin de compte, moi le terme maladie me dérange un petit peu parce que personne vous force à mettre la bouteille à votre bouche. La maladie n'est pas comparable à d'autres maladies dont je ne vais pas nommer le nom, mais moi ça me gêne un petit peu. Je trouve ça un petit peu déculpabilisant pour le malade et pour l'entourage, à savoir que effectivement c'est une maladie qu'on se crée et effectivement il faut savoir pourquoi on se la crée aussi, parce qu'on ne boit pas, encore une fois, pour sans aucune raison. On se remplit, il faut trouver la raison pour laquelle on boit. Après, pour ce qui est vraiment du milieu social dans lequel on est, il faut pas avoir de complexe à dire non, moi je ne bois pas, et moi ma protection, parce que je me suis retrouvée dans des soirées alcoolisées, c'est d'avoir une bouteille d'eau à la main, tout simplement, et d'éviter effectivement d'avoir un verre d'alcool devant moi, et quand j'en ai un, je le repousse, et puis de dire non, moi maintenant je ne bois plus, tout simplement. Et une fois que la case alcool s'est refermée, elle s'est complètement refermée, et l'entourage doit le comprendre. Il a fallu que je montre le point sur la table quand même pour dire à mon entourage non, je ne bois plus, parce que je me suis disputée un jour et on m'a dit mais t'as qu'à aller chercher une bouteille d'alcool, ça ira mieux, ça va passer. Ben non, je ne bois plus, c'est la case alcool est fermée. Et c'est vrai que l'entourage, il faut lui faire comprendre aussi. Donc effectivement, dans un premier temps, sans s'isoler complètement et rentrer dans un processus d'isolement qui peut vous rendre dépressif, il faut quand même être entouré de gens qui boivent le moins possible et qui évitent effectivement de boire devant vous. Moi, je sais que mon compagnon a arrêté de boire avant que même j'arrête de boire. Et ça a été extrêmement aidant et positif pour moi.
Une dernière question qui est très simple. Docteur Romain Gaumet, dans quel cas l'hospitalisation est-elle indispensable ?
Alors, on en a parlé tout à l'heure. Là, l'hospitalisation, elle est indispensable pour faire le sevrage. Arrêter l'alcool en toute sécurité chez les patients qui ont des signes de sevrage qui vont être graves, qui vont avoir fait des crises d'épilepsie sur des arrêts brutaux de l'alcool, qui ont fait des hallucinations, des déliriums, ce qu'on appelle le délirium très mince, sur un arrêt brutal de l'alcool. Là, la question ne se pose pas, il faut hospitaliser, il faut protéger les gens du sevrage, il faut qu'il y ait des soignants qui puissent être là. Après, se pose la question par rapport à tout ce qui est cure et... là, pour le coup, il n'y a pas d'indication formelle. C'est quand le trouble est très très important, très sévère, la question de la cure, elle peut vraiment se poser pour obtenir des stratégies, faire de la psychothérapie, reprendre goût à des hobbies, à des activités. Et ça peut prendre du temps. Et du coup, là, des fois, l'hospitalisation est une vraie, vraie plus-value.
Avec une dimension de rééducation, le mot de la fin, Virginie Amonet, il nous reste peu de temps.
Oui, très rapidement. En fin de compte, le délirium tremens, c'est très, très grave. La crise de manque est très, très grave. On a l'impression qu'on va mourir, véritablement. Et en fait, la première solution qu'on trouve, c'est d'avoir un verre d'alcool. Parce que c'est comme ça, c'est comme de l'oxygène. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas votre verre d'alcool. Le délirium tremens, si vous voyez des visages noirs et blancs partout dans la pièce, que vous ayez les yeux fermés ou pas, vous ne tenez plus debout. Extrêmement grave. Donc il faut effectivement se faire suivre absolument. Et vous pouvez effectivement en mourir et vous avez l'impression que vous allez en mourir. Et puis pour finir, et un dernier mot, effectivement, les cures, les sevrages, c'est très bien, mais savoir vraiment pourquoi on boit et se faire accompagner le plus rapidement quand on a eu cette prise de conscience. Parce que les soins, on vous fait parfois attendre 3 semaines avant d'être soigné. Et ça, c'est très grave. On vous laisse sortir de l'hôpital, vous êtes en manque. On vous laisse sortir sans ordonnance, sans voir un médecin, sans avoir une consultation, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez chercher votre anxiolytique préféré et votre alcool préféré.
Donc, être écouté quand on en a vraiment besoin. Merci pour ces témoignages. Merci à vous, Virginie Amonet. Le titre de votre livre, « Noyé dans l'alcool » aux éditions Max Milo, docteur Romain Gaumet, « Je maîtrise ma consommation d'alcool » aux éditions Ellipse. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Demain, nous donnons la parole aux jeunes. Le sujet du jour, communiquer avec ses parents. Faut-il tout dire ? Faut-il garder un jardin secret ? Appelez-nous 33 84 22 75 75. On compte sur vous.
Avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.